vous avez en partie abordé le sujet, répondu à la question, mais sur cette question de la tension entre réponse à la demande et grenellisation hein, des mobilités, il semble qu'il y a deux enjeux. Vous avez effleuré les questions d'aménagement du territoire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, il y a une pensée d'aménagement du territoire qui est une pensée visant à réduire les déplacements contraints en quelque sorte, et notamment vous avez parlé de la notion de rapprochement de domicile-travail. Est-ce que réellement c'est une solution pour vous? Est-ce que ça a du sens, la notion de rapprochement de domicile-travail? Ça c'est un peu, je dirais, en amont. Et puis de l'autre côté, vous avez évoqué les problèmes de cohérence des gouvernances. Il me semble qu'il y a une question aujourd'hui sur laquelle j'aimerais bien avoir votre sentiment, c'est à quoi ça sert d'avoir trois niveaux d'AOT, d'autorité organisatrice des transports, empilés comme ça, dès lors qu'on a au contraire des enjeux de continuité des réseaux. Est-ce que là, pour le coup, le millefeuille, qui par ailleurs est peut-être dénoncé de manière un peu rapide en général, mais est-ce que là, pour le coup, le millefeuille ne montre-t-il pas ses limites?
Je vais répondre directement à la deuxième question. Je dirais que c'est un peu plus compliqué sur la première à mon niveau. Sur le problème des autorités organisatrices de transport, oui, la question est posée. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé là. Je n'ai pas beaucoup parlé de transport, disons, dans la mise en œuvre. Je parlais un peu globalement. Oui, la question est posée. Il y a des réponses à apporter. On va donner un exemple simple. Les départements font encore... pour une part, les transports interurbains, c'est un héritage des années 70, hein, à peu près, je ne sais plus quelle année exactement, et les régions font les transports express régionaux, les TER, qui sont à la fois des trains, et puis aussi des bus. Parce que dans les transports express régionaux, il n'y a pas que des trains. Il y a aussi des bus. Dans les concitoyens, c'est les trains. Mais en fait, non, il y a aussi des bus. Bon. Est-ce qu'il faut deux AOT différentes pour les transports interurbains? Non, ma conviction, c'est que nos transports urbains départementaux, on devrait les passer aux régions. Je pense que l'interville, quelque chose qui est infra-régional assez naturellement, et puis parfois, disons, inter-régional, parce qu'on va aussi d'une ville d'une région à une ville d'une autre région. Mais à ce moment-là, il faut un accord entre les partenaires. Bon. Donc ça, évidemment, on a déjà à remembrer un peu pour un peu plus, disons, de visibilité. Mais les questions sont beaucoup plus complexe en fait. Parce que la question, la demande des gens, elle est un service simple. Ils s'en foutent de notre complexité, je l'ai dit tout à l'heure et je le maintiens. Ils ne cherchent pas à savoir qui est-ce qui s'occupe du car, du truc. Qui est-ce qui s'occupe du. Pour eux, le train, par exemple, ça reste la SNCF, vous savez. Bon. Mais ce qui est important pour eux, c'est comment je prends mon billet, est-ce que c'est simple ou compliqué. Si je veux aller d'un point à un autre et qu'il faut que je change deux fois de véhicule, est-ce qu'il y aura des correspondances simples? Est-ce que je vais me perdre d'un point à l'autre à pied ou est-ce que je vais pas, voilà. Et puis quand je demande mon billet, j'en veux qu'un. Je veux pas 10 parce que si vous je change de machin. Puis je veux pas passer une heure sur internet pour avoir tous les billets pour un parcours qui au total dure une demi-heure. Il y a un moment donné, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc on a besoin de ça. Bon. La loi sur les transports intérieurs, offrait toutes les possibilités, mais elle les offrait. Elle les imposait pas. Je vous l'ai déjà dit parce qu'on s'est retrouvé souvent sur des tribunes. Région, département, agglo, on a besoin aujourd'hui d'autorités organisatrices de niveau régional. Mais je ne dis pas régional avec région toute seule, parce que la région toute seule, elle aura du mal de respirer au rythme de chaque territoire, mais d'autorités partagées. Donc si le législateur voulait faire œuvre-t-il, il devrait demander qu'un syndicat mixte régional composant toutes les AOT soit créé dans chaque région à 3 ans ou à 4 ans. Avec des objectifs de travail, la vie simplifiée, l'information simplifiée, l'intermodalité renforcée, etc. On sait à peu près écrire ce dont on a besoin de faire. Si on fait ça, je dirais sur les autres. Voilà. Mais c'est vrai, on peut le faire. Il y a vraiment un travail à faire. Il y a quelques endroits où ça se fait. Mais ça ne se fait pas assez. Le deuxième point, sur la réduction des déplacements domicile-travail. Alors, il y a deux branches. Il y a la nouvelle conception de la ville, entre guillemets. La nouvelle conception de la ville, ça se fait. Les gens, ils conçoivent la ligne de tram, et ensuite, ils construisent des quartiers, et ils vont construire les écoquartiers autour de la ligne de tram. Ça, si vous construisez en périphérie d'une agglo, à 10 km du centre, à 8 km du centre, à 6 km du centre, le quartier, et qu'ensuite vous cherchez comment on va de ce quartier au centre de la ville, alors vous êtes à peu près 2 fois sur 10 dans une impasse insurmontable. Si vous concevez la ligne de tram et qu'ensuite, dans l'espace de 60, 80, 100 hectares qui a été ciblé, vous pouvez construire l'écoquartier, alors les gens, pour aller au centre-ville, ils prendront le train. Ça, alors il n'y a pas photo, ils ne vont pas s'enquiquiner en bagnole, surtout si simultanément, vous triplez le prix des parkings au centre-ville. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et là, vous n'avez rien limité du tout. Vous n'avez pas limité le déplacement domicile-travail. Au contraire, vous l'avez favorisé. Ça sera plus facile. Les gens mettront moins de temps qu'en voiture, avec un coût moindre, avec des conséquences moindres, avec plus de sécurité, etc. Vous allez toujours dans le même sens. Donc ça, c'est la nouvelle conception. La nouvelle conception, elle est extrêmement, motivante pour les architectes, pour les urbanistes, pour les penseurs, pour les politiques, pour les responsables des services techniques et administratifs. Elle est motivante. En même temps, on réfléchit où est-ce qu'on va mettre le gymnase, où est-ce qu'on va mettre le collège. Enfin, on construit quelque chose de nouveau qui intègre complètement la question que vous avez soulevée. Après, il y a une autre façon de le voir, il y a une façon, je dirais, psychorigide. On dit, ah ben, vous voulez construire à votre maison à 30 km de la ville. Ah oui, mais vous êtes un fol dingue, vous n'avez pas le droit, vous allez émettre du CO2 parce qu'il n'y aura pas de bus pour aller de ce point-là à l'autre, il n'y aura pas de bus effectivement, donc je vous interdis. Vous n'avez pas le droit, et en plus, vous prenez 10 arbres de terrain agricole, ce qui est un scandale par rapport à la faim dans le monde, etc. Il y a la culpabilisation du déplacement. Ça, je suis plus réservé. Je dis, c'est quand on manque d'outils convaincants qu'on utilise des outils, hyper contraignants, pour ne pas dire de gros mots. Et là, je suis un peu plus réservé parce qu'il y a un choix de mode de vie, il y a un problème de liberté quand même, de choix individuel. C'est pas forcément de la faute de celui qui se déplace si son automobile est polluant. On peut imaginer... avec d'autres technologies, et ça aussi, c'est l'objet de beaucoup de discussions et de recherches, etc., dans les pôles véhicules du futur, Moveo, etc., on peut imaginer des véhicules qui ne polluent pas et qui permettent d'habiter à quelques dizaines, enfin trop, kilomètres des centres-villes et de venir. On peut imaginer des parkings en périphérie des dites villes où on laisse son véhicule en question pour monter dans un transport en commun. Enfin, il y a d'autres modes. Donc, il y a un moment donné, on peut réduire ce déplacement. Il faut surtout réduire l'impact du déplacement. Voilà. Il ne faut pas qu'on touche à la société de liberté à laquelle, je crois, nous sommes unanimement attachés. Moi, je suis rapide, hein, ça mériterait plus de...
Michel, il y a deux questions, je pense.
Oui, mais pas plus, parce que c'est très bien d'avoir des questions, mais il faut aussi...
Ah ben, je respecte. Non, mais...
Arrêtez quand vous voulez.
Non, il y a deux questions, simplement une question et une remarque par rapport à votre intervention tout à l'heure sur l'engorgement du trafic routier à certaines heures et certains jours, entre autres du trafic poids lourd. Il y a quelques années, il y avait une expérimentation qui avait été réalisée, entre autres, sur l'autoroute du Nord, où, suivant certaines heures, vous aviez une modularité dans les trafics de dans les tarifs de péage. Et apparemment, c'est une expérimentation qui a été abandonnée. Est-ce que c'est dû à... Quelles ont été les conclusions à l'analyse ? Est-ce que ça a été, en tout cas, un succès ? Est-ce que ça a été un échec ? Est-ce que c'est une idée, en tout cas, de bonusser ou malusser le tarif péage suivant certains jours et certaines heures de la journée, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour réguler un peu plus le trafic?
Je n'ai pas l'évaluation de cette expérience, donc je ne peux pas dire pourquoi elle a été abandonnée, je ne sais pas. En tout cas, si on informe les gens davantage sur les conditions de leur déplacement et le prix payé, mais aussi sur les solutions alternatives proposées, parce que on peut dire aux gens, ça va être cher. Bon, ça va être très cher. Mais bon, en même temps, ils partent chez eux et ils vont travailler. Alors, vous travaillez, donc vous avez un lieu de travail, vous devez y arriver, quoi. Si on ne vous dit pas quelles sont les solutions alternatives, à un moment donné, vous allez trouver votre patron et vous dites, écoutez, pour venir chez vous travailler, puis j'aime bien travailler avec vous, je suis très content de l'entreprise, mais alors j'ai un coût de transport énorme, il faudrait m'aider. Vous n'allez pas penser à prendre un autre itinéraire si vous ne le connaissez pas. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on offre des alternatives. C'est ce qui est aujourd'hui dans la réflexion sur les transports intelligents. Offrir à l'usager de ce dispositif énormément d'informations qui fassent qu'il arbitre lui-même. Est-ce que je demande à changer mes horaires? Les plans de déplacement entreprise, ça existe, hein, ça se fait, on réfléchit à tout ça. Est-ce que je demande à changer mes horaires ou est-ce que je demande à changer mon parcours? Ou est-ce que je vais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a différentes options. Je ne peux pas juger une expérience, parce que je ne la connais pas suffisamment pour apporter une appréciation. Mais en tout cas, il faut un maximum d'infos.
Une observation sur cette expérience, je ne la connais pas bien, mais elle était le dimanche après-midi, c'est-à-dire sur des déplacements moins contraints que le domicile de travail, politiquement plus acceptable. Et ça avait marché, c'est-à-dire que ce n'était pas pour un franc en plus ou en moins, parce que c'était des francs à l'époque que les gens changeaient leurs habitudes, c'est parce qu'ils comprenaient à travers ce signal de prix qu'en partant plus tôt ou en partant plus tard, ils échappaient aux bouchons et aux disputes des enfants sur la
partie. Pour les retours de week-end, effectivement.
C'était le dernier retour de week-end, et ce n'est pas un jour de travail, ce qui est quand même politiquement différent. Et c'est la dernière question.
Je dis, si le bison futé n'existait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que si les annonces de bouchons de transport n'existaient pas aujourd'hui, les gens continueraient de sortir tous à la même heure. Mais quand ils voient la carte le vendredi, enfin le jeudi soir ou le vendredi matin à la télé, ils disent on ne part pas à l'heure prévue, on va décaler 3 heures. C'est pas possible.
Bien sûr, c'est bien. Dernière question. Donc, vous n'avez pas fait.
Ah non.
Ah, j'avais cru que vous bougiez la main. Alors, j'ai pas senti.
Je sens que les gens étaient juste à ton micro et puis tu dis vous vous présentez à chaque fois.
Pardon. Voilà, c'est bon.
Bonjour, Vincent Val. À l'agriculture. C'était juste une petite extrapolation de ce que vous disiez sur les syndicats mixtes à l'échelle régionale. Est-ce que c'est là qu'il faut s'arrêter, puisque on sait bien que ça pour aller de Dijon à Dole, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, mais on change de région.
Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas tout recentraliser. Je crois que on dit, la commune ne peut pas tout régler, donc on va lui enlever toute la compétence, on va la remonter au niveau départemental. Ah, mais il ne peut pas tout faire, on va le mettre au niveau régional, elle ne peut pas tout faire, on va faire avec les autres régions, à la fin, on fait les chats. Bon. Alors là, il y a quand même quelque part, il faut qu'on se dise, mais pourquoi on avait fait dans l'autre sens? Parce que si on oublie ça, on avait fait dans l'autre sens parce que ça ne marchait pas. Mais quelle est la particularité d'un système comme celui que nous avons aujourd'hui dans les collectivités, avec une relative décentralisation qui pourrait bien sûr être améliorée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, le technicien, dans la salle il y a quelques élus, mais il y a beaucoup de techniciens, il a un levier politique qui est dans la porte à côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pose une question, il demande la réponse, et la réponse vient relativement vite, sinon très vite. C'est-à-dire qu'il pose une question, il dit comment on fait entre ça et ça, moi je propose ça, mais est-ce que vous êtes d'accord? Et le politique est dans le bureau d'à côté, il dit, ok, j'ai bien compris ce que vous dites, on prend donc la solution B+, ou la B1, ou la B2, ou la A, etc. On est d'accord avec vous, allez-y. Et donc, parfois, dans l'heure, il peut engager, il a la question, il a le choix, il avance. Bon, si on remonte dans l'ancien système, quand on pose la question et que la réponse revient, celui qui avait posé la question, il a été muté. Vous comprenez, il est déjà ailleurs. Donc là, il faut faire attention. Donc, il y a des accords interrégions, ils ne posent pas de problème au niveau du ferroviaire, surtout que souvent l'opérateur, lui, il a un cheval, etc. Donc je dis, il faut savoir, si je dis AOT partagée plus qu'autorité régionale unique, je dis qu'il faut qu'elle soit partagée. Pourquoi? Parce que il y a aussi la respiration du terrain, la demande de l'usager, la proposition de l'usager, la proposition de l'élu local, la proposition du technicien local qui a des idées, etc., qui doit respirer. Il y a pas, c'est un système démocratique dans lequel on fonctionne. C'est un système, finalement, qui doit être assez participatif. Hein. Les régions ont beaucoup travaillé sur les comités, enfin les réunions d'usagers, hein, voilà, les usagers de ligne. Et c'est avec les usagers de ligne qu'on adapte les transports. Les gens disent, mais vous savez, là, on arrive 8 minutes trop tard ou 6 minutes trop tard, et tout le monde, tout le temps est en retard, il faut que vous avanciez un petit peu, etc. Il y a des fois, c'est des ajustements, c'est fin, on ne peut pas le faire depuis le ministère de l'équipement à la Défense, cet ajustement-là. Il faut quand même qu'il soit pensé localement, et la mise en œuvre ne doit pas être trop longue.
Bon. Bien, merci, c'est aussi une conclusion politique.